15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Tous les jours, il est à mes côtés pour prendre soin de votre santé, pour vous rassurer. Vous, auditeur d'Europe 1, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, pour démarrer cette émission, on va changer un tout petit peu puisque l'on vous propose, et on le fera le temps qu'il faudra, un point sur le coronavirus. On vous détaillera la situation épidémique dans notre pays et on répondra aux questions que vous posez sur ce virus. Ensuite, Sans Rendez-vous reprend son cours normal aujourd'hui dans notre grand dossier du jour, on va parler d'un problème qui concerne beaucoup de femmes, la fausse couche. Cela est bien plus fréquent que l'on imagine. Environ une grossesse sur cinq se termine de cette façon. Nous verrons quelles sont les raisons qui font qu'une grossesse s'arrête et surtout, quand ça se répète au-delà de deux ou trois fausses couches, là, il faut que les femmes soient prises en charge de façon spécifique. C'est ce que nous détaillera notre invité. C'est le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il nous alerte sur un nouveau jeu débile à la mode sur les réseaux sociaux, le Skullbreaker Challenge, déjà à l'origine de nombreuses blessures chez les jeunes. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, aujourd'hui on vous dira tout sur la scarlatine et enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question d'amour à distance. Et tout de suite, donc, pour ouvrir ce magazine santé, on change un tout petit peu nos habitudes puisqu'on ouvre cette émission par un point sur le coronavirus. Et donc, j'attaque par la situation en France. Chaque jour, le ministère de la Santé communique les chiffres officiels. Alors, ce que je vais vous donner, ce sont les derniers chiffres dont on dispose, ceux relevés hier à 16h. Nous avons donc désormais 130 cas confirmés sur notre territoire au total. Sur ces 130 personnes infectées, 12 sont guéries, 2 sont mortes et 116 sont hospitalisées, dont 9 dans un état grave. Alors à ce jour, il faut savoir que les deux plus gros foyers de cas groupés se trouvent dans l'Oise et à la Balme en Haute-Savoie, où des mesures strictes sont appliquées depuis samedi pour éviter la propagation du virus. Par exemple, les rassemblements sont interdits, les habitants ont prié de limiter leurs déplacements et dans 9 communes de l'Oise, ça va même un peu plus loin, les établissements scolaires et périscolaires resteront fermés jusqu'au 14 mars inclus. En revanche, ailleurs, ça peut sembler étonnant, mais il n'est plus recommandé d'observer de quarantaine pour les gens qui reviennent par exemple d'Italie. Ça, c'est parce qu'on est passé en phase 2 de l'épidémie. Ça veut dire que le virus circule en France et l'urgence à présent, c'est de mettre en place des mesures pour freiner sa propagation, précise Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.
Il n'y a plus de consignes de maintien à domicile. On est plutôt dans une adaptation des comportements. Et donc, soit vous pouvez limiter votre travail, travailler à distance, suivre des cours à distance et c'est mieux. Soit vous réduisez votre participation, par exemple, à des grands événements ou à des réunions où il y a beaucoup de monde.
Alors de toute façon, aujourd'hui, ce serait compliqué de forcer au confinement tous les Français revenant des plus de 60 pays où le coronavirus sévit. D'ailleurs, la majorité sont sûrement en excellente santé. Par contre, il leur est demandé de surveiller régulièrement leur température au moins 2 fois par jour. Alors Jimmy, on va répondre à présent à quelques questions que les Français se posent sur ce virus. On sent qu'en France, l'inquiétude monte. Pourtant, du côté des scientifiques, on essaye de rester rassurant. En tout cas, rationnel. Et ce week-end, il y a eu une publication de Jimmy qui a relativisé un petit peu la dangerosité de ce nouveau pathogène. D'abord en précisant justement le profil actuel des personnes qui sont vraiment infectées.
Alors c'est vrai que ce virus date de 4 mois, mais on commence déjà à avoir un tout petit peu de recul, notamment avec l'exemple chinois. Et donc on avait une série de cas, 72 000, dans lesquels on a simplement testé au coronavirus 45 000 patients. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des diagnostics de certitude chez tout le monde. Chez certains, on pense avoir le diagnostic, mais on n'est pas obligé de faire l'examen pour le confirmer. Et donc, dans cette étude, on a plutôt un âge médian de 59 ans, donc des gens un peu âgés en règle générale. C'est plutôt des hommes qui sont un peu plus touchés que les femmes. Et les cas sévères surviennent essentiellement chez les fumeurs, pour 2/3 des cas, c'est des hommes, et chez les personnes qui ont des comorbidités.
Ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire des pathologies à risque, comme de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire,
même de l'asthme,
un cancer, de l'asthme, d'être immunodéprimé. Et on sait que plus on avance dans le temps, dans l'âge, et plus on a un risque de complications graves de ce coronavirus. En revanche, la mortalité est plutôt très faible chez les gens qui ont moins de 40 ans. À titre d'exemple, lorsque vous avez moins de 40 ans, vous avez 0,2% de risque de mortalité et il augmente avec l'âge.
Et justement, la mortalité, parce qu'on lit sur Internet, un peu partout, tout et n'importe quoi. On a l'impression qu'il est très dangereux, qu'il tue tout le monde, qu'il y a beaucoup de morts. Parce qu'en Chine, notamment, il y a eu tellement de gens atteints qu'il y a eu beaucoup de décès. Finalement, le taux de mortalité, aujourd'hui, il est de combien en réalité ?
Alors, pour l'instant, les chiffres nous disent aux alentours de 2%. En revanche, dans l'étude, on nous explique que les cas peu symptomatiques, voire asymptomatiques, c'est-à-dire des gens dont on ne fera pas forcément le diagnostic, sont aussi nombreux que les cas qu'on a diagnostiqués, ce qui veut donc dire qu'on a deux fois plus de cas. Pour autant, ça réduirait la mortalité en dessous des 1%, se rapprochant tranquillement de la mortalité d'une grippe classique.
Celle qu'on a tous les hivers.
Exactement.
Finalement,
donc, très certainement qu'on a on surestime la mortalité car il y a des cas qui passent inaperçus.
Alors, on va passer à une autre donnée rassurante, les enfants qui semblent toujours épargnés par ce virus. En France, on vient d'avoir certes deux cas d'enfants de 1 et 5 ans qui ont été confirmés là, il y a quelques heures, mais leur état ne serait pas inquiétant. Donc, il y a très peu d'enfants atteints, hein, Jimmy, c'est
oui,
ça
dans cette série, c'est aussi très intéressant. On se rend compte qu'il y a moins de 1% des enfants de moins de 10 ans qui sont atteints et aucun décès. Donc, c'est une donnée qui est plutôt rassurante. Pour autant, peut-être qu'il serait quand même symptomatique, peut-être qu'il serait quand même un peu contagieux, ces enfants.
Alors justement, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a tenté d'expliquer cette particularité des enfants au micro de Mathieu Charrier, on l'écoute.
On teste des enfants très régulièrement, on les trouve parfois positifs, mais souvent avec des formes extrêmement bénignes. Et on a pas de signe de gravité chez un enfant en France. Après, sur l'explication quant à la relative bénignité de cette infection chez les enfants, les pédiatres infectiologues nous disent que, en fait, les enfants font d'une part des infections à coronavirus, très souvent pas celui-là, hein, les autres, hein, les cinq qu'on connaît depuis très longtemps qui sont souvent des infections bénignes. Donc ils ont probablement une habitude qu'on a perdue beaucoup plus tard à l'âge adulte. Et puis par ailleurs, il y a peut-être une possibilité d'immaturité du système respiratoire de l'enfant qui fait que finalement le virus ne s'accroche pas. On se retrouve finalement avec un virus qui a du mal à donner des signes cliniques sévères chez l'enfant. Donc plusieurs pistes, mais en tout cas, bonne nouvelle pour les parents, et ça se confirme quand même à la fois en Asie et ici, on n'observe pas de formes sévères.
Voilà donc des données rassurantes concernant les enfants et ce virus. Et donc tous les jours, dans son rendez-vous, au début de l'émission, on vous fera un point de situation sur le coronavirus. Et même demain, on vous propose une émission spéciale sur le coronavirus pour vous informer encore davantage dès 15h. On détaillera aussi toutes les mesures qu'on peut chacun d'entre nous mettre en place pour éviter d'être contaminé.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous alerter sur un challenge idiot, faut le dire, hein, mais attention à la mode sur les réseaux sociaux, le Skull Breaker Challenge, déjà à l'origine de pas mal de blessures chez les jeunes. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Jean-Marc Ayoubi, pour parler des fausses couches, à quoi sont-elles dues et surtout comment les prendre en charge quand elles se répètent. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous faire une mise au point, une mise en garde sur un nouveau challenge à la mode sur les réseaux sociaux, le Skull Breaker Challenge. Je l'ai bien dit, Jimmy ?
Oui, c'est très bien, très bel accent.
Ok, super. Alors challenge, disons-le, complètement débile, à l'origine de nombreuses blessures aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, expliquez-nous.
Alors le Skull Breaker Challenge, qui pourrait être traduit par le défi casseur de crâne. C'est un défi, vous avez raison, totalement stupide et surtout dangereux, à la mode notamment sur le réseau social TikTok. Alors le défi consiste à faire sauter trois personnes alignées debout. Pendant que la personne du milieu est en l'air, les deux autres complices lui donnent un coup de pied dans les jambes pour le faire tomber par surprise.
Alors là déjà je suis honnête comme on dit sur les fesses parce que je trouve ça tellement débile déjà que bon. Alors d'autant plus que les témoignages de parents qui ont eu donc des enfants victimes d'accidents, ils sont vraiment de plus en plus nombreux. Hein.
Exactement, les témoignages se succèdent sur les réseaux sociaux et notamment dans les médias américains. Moi j'ai retenu le message sur Facebook de la maman d'un enfant dans l'Arizona. Elle raconte qu'on a demandé à son fils de faire un concours de saut avec ses deux amis entre guillemets. Il a sauté, les deux garçons lui ont donné un coup de pied aussi fort qu'il le pouvait de sorte que ses jambes se sont envolées devant lui. Oh, il a atterri à plat dos et sur sa tête. Alors qu'il luttait pour se relever, il a perdu connaissance, il est tombé en avant en atterrissant sur le visage. Bilan, de nombreuses pointutures au visage, des lésions au niveau de la bouche, deux dents cassées. Et puis il y a aussi d'autres témoignages, la maman d'un enfant lycéen victime de commotion cérébrale qui a témoigné. Bref, un jeu complètement stupide et extrêmement dangereux.
Bon, donc avec ces gamins-là qui prennent plaisir à se fracasser le crâne, hein, parce que c'est ça qu'on comprend bien, il y a le risque évidemment pour le cerveau aussi, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, le risque de traumatisme crânien, donc ça peut aller de la simple commotion cérébrale à l'hémorragie cérébrale. Alors c'est vrai que quand on dit commotion cérébrale, ça fait pas peur et en revanche, ça ne se résume pas à se cogner la tête et avoir simplement mal à la tête ou s'évanouir. C'est une véritable lésion cérébrale qui peut perturber le fonctionnement du cerveau. Maux de tête, difficulté à se concentrer, les pertes de mémoire, la sensibilité à la lumière, les problèmes d'équilibre ou de coordination font partie des symptômes possibles. Certains symptômes vont durer simplement une semaine à 10 jours, tandis que d'autres peuvent persister beaucoup plus longtemps, surtout si vous ne prenez pas suffisamment de temps pour récupérer. On a évidemment d'autres traumatismes, un enfant qui s'est cassé le poignet, des lésions du rachis cervical, des traumatismes de la face, bref, vraiment un jeu, encore une fois, je sais qu'on le répète, mais c'est vraiment dangereux, il faut sensibiliser les plus jeunes.
Et que fait le réseau pour lutter contre ce phénomène, justement ?
Alors les témoignages se succèdent, malgré tout, le phénomène prend de l'ampleur et les vidéos enregistrées sous le hashtag Skullbreaker Challenge sur TikTok compte désormais plus de 7,2 millions de vues.
Tant que ça.
Suite à la médiatisation et aux réactions des internautes, le réseau social a publié un message, La Belle Affaire, sur son compte Twitter pour rappeler les valeurs de la communauté. Et il nous explique que chez TikTok, nous encourageons toujours un environnement amusant et sûr.
Très
contribuer
amusant, ouais.
à la sécurité de TikTok en signalant les tendances dangereuses et autres violations de nos directives communautaires. Bref, sensibiliser à vos enfants à ce jeu vraiment stupide et surtout ne le reproduisez pas, les conséquences peuvent être dramatiques.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour cette mise en garde, donc surtout c'est fou tous les défis idiots qui peuvent voir le jour régulièrement, donc vraiment attention à vos enfants. À présent, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Ayoubi.
Bonjour Mélanie.
Bonjour, merci beaucoup d'être sur notre plateau. Alors d'abord, avec vous, on a dit qu'on allait parler de fausse couche. On va redéfinir justement ce que c'est une fausse couche. Est-ce qu'il y a une définition? Parce que déjà le terme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire fausse couche. C'est pas bien employé, je crois. Hein.
Le terme ne correspond pas tout à fait à la pathologie. Une fausse couche, c'est une grossesse arrêtée, tout simplement. C'est une grossesse arrêtée, tout dépend à quel terme cette grossesse est arrêtée. Donc on parle de fausse couche, souvent on parle souvent de fausse couche ou de grossesse arrêtée précoce ou de fausse couche ou grossesse arrêtée tardive. En tout cas, la pathologie la plus importante et le nombre des grossesses arrêtées le plus important, ce sont les fausses couches avant 14 semaines.
Ça, c'est précoce. Hein, c'est ça, avant 14 semaines. Jimmy ?
Et la fausse couche, dans l'immense majorité des cas, on va dire qu'elle s'évacue toute seule, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intervention médicale pour, on va dire, pas se débarrasser, mais pour que tout s'évacue normalement.
Une fois qu'on a défini le terme de grossesse arrêtée, de précoce, de grossesse arrêtée ou de fausse couche précoce, il est important tout d'abord de confirmer qu'il ne s'agit pas d'erreur de terme. Parce qu'en une semaine, on verra que ce n'est pas un œuf clair, ce n'est pas une fausse couche, ce n'est pas, il n'y a pas d'hémorragie et que c'est une grossesse qui est évolutive. Donc avant de se précipiter, il faut confirmer à une semaine d'intervalle ou 10 jours, il n'y a aucune urgence s'il n'y a pas d'hémorragie. Ça, c'est la première notion. Ensuite, à partir du moment où on a confirmé qu'il s'agit bien d'un œuf clair ou d'une grossesse arrêtée, il faut trouver le meilleur traitement pour que l'évacuation se fasse. L'évacuation se fasse, peut se faire de façon spontanée, le plus souvent, dans la plus grande majorité des cas, et tant mieux. Il faut juste vérifier après que la totalité du produit embryonnaire a été éliminée. Et si cette grossesse ne s'élimine pas spontanément, il faut organiser un traitement médical. J'insiste bien sur le terme traitement médical. Éviter à tout prix une aspiration ou un curetage, sauf dans les cas d'hémorragie importante qui mettent en jeu le pronostic vital.
Alors aujourd'hui, professeur, on va surtout parler des fausses couches précoces finalement.
Bien
on va pas s'intéresser aux fausses couches tardives, c'est un autre sujet. Là, la fausse couche, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est vraiment quelque chose de très fréquent quand même. Combien on les mesure? Combien il y en a chaque année de fausses couches par exemple?
Alors, autant le nombre de naissances par an en France, on connaît le nombre de naissances.
800 000 à peu près, hein,
à
c'est ça.
Une naissance près.
Ouais.
Okay. Le nombre de fausses couches est aléatoire. C'est un calcul qui est approximatif, parce qu'en fait, c'est une estimation. Et quand on regarde les publications, les études qui ont été faites à propos des fausses couches, le taux de fausses couches spontanées varie entre 10 et 15-20 %. Ceci étant dit,
c'est une grossesse sur 5, quoi.
C'est une grossesse
modo,
sur 5, une grossesse sur 6, mais en fait, il y a beaucoup de fausses couches qui ne sont pas comptabilisées. Peu importe, c'est pas le sujet. On sait que c'est une pathologie fréquente. On sait que c'est une pathologie qui est importante, car au-delà de l'épisode qui est simple,
c'est presque une femme sur deux qui en aura une dans sa vie, peut-être, ou c'est trop là.
Oui, ouais. C'était tout à fait possible. Mais on a vu avec les résultats des fausses couches qui sont bien avec les résultats des fausses couches au cours ou après fécondation in vitro, ce sont des fausses couches qui sont bien comptabilisées et on sait que le taux est de l'ordre de 25%. Donc c'est une grossesse sur 4. Parce que là, tout est comptabilisé.
Merci beaucoup, professeur Ayoubi. On ne fait que commencer cet entretien, bien sûr. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons parler plus en détail des différentes causes des fausses couches. Vous verrez que l'âge, notamment de la femme enceinte, influence pas mal ce risque. Est-ce que le stress aussi peut jouer? On verra ça. On va vous détailler tout ça dans un instant avec notre invité. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch. Professeur Ayoubi, quand on parle de fausses couches, on sait que bien souvent c'est une cause naturelle. On dit le fameux « la nature est bien faite », « la nature fait bien les choses ». Mais c'est quoi la nature dans ce cas-là, quand on dit une cause naturelle, la nature fait bien les choses, il se passe quand même quelque chose?
On sait qu'une proportion importante, 30, 40, 50% de fausses couches sont dues à des anomalies chromosomiques. Et c'est dans ces cas qu'on dit que la nature fait bien les choses, donc il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait. Mais il faut insister sur un point qui est plutôt positif et optimiste. C'est quand on fait une fausse couche, la première fausse couche, on est sûr qu'on n'est pas infertile. Et c'est quand même une notion très importante. Donc, je leur dis toujours, c'est la moitié du verre plein. Et il faut regarder que tout fonctionne bien.
Ça veut dire qu'on peut être enceinte.
Ça veut dire qu'on peut être enceinte et on n'est pas infertile. Donc, c'est une notion plutôt optimiste. En revanche, après, il y a un projet de naissance qui s'est stoppé net. Il y a l'espoir d'avoir un enfant qui s'est stoppé net.
La nature est bien faite, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, hein, bien sûr.
Absolument, ouais. Et qu'il faut s'en occuper, surtout s'il y a répétition de fausses couches et s'il y a des fausses couches à répétition. Mais il ne faut pas oublier de bien préciser à la patiente que c'est une preuve que l'appareil génital, que tout fonctionne bien.
Donc ça, c'est le côté effectivement très positif qu'il faut effectivement mettre en avant. Quand ce n'est pas une cause naturelle, quand ce n'est pas la nature est bien faite, comme on vient de le décrire, c'est à cause de quoi une fausse couche? Il y a d'autres raisons qu'on connaît. Hein.
Alors, il y a des causes qui sont connues, d'autres qui sont inconnues. Toute infection génitale peut donner une fausse couche, des malformations utérines, de malformations de fibromes, sous-muqueux, c'est-à-dire dans la cavité utérine, de polypes.
De la fièvre, avoir une infection.
De la fièvre, ouais. Toute infection peut donner une grossesse arrêtée, une fausse couche. Il y a des causes aussi. Le tabac peut favoriser les fausses couches. L'obésité peut favoriser les fausses couches. En tout cas, les causes sont multiples. Hein. Ils sont traitables.
C'est ça la bonne nouvelle aussi. Jimmy ?
Est-ce que le risque de fausse couche augmente avec l'âge de la femme ou pas spécialement ?
Tout à fait. Le taux de fausse couche double pratiquement entre 20 et 40 ans. Le taux de fausse couche augmente régulièrement avec l'âge, mais avec l'âge de la femme, mais surtout avec aussi, plutôt, pas surtout, et aussi avec l'âge de l'homme.
Ah, ça, on ne le dit pas souvent.
On culpabilise souvent la femme, on va faire des enfants de plus en plus tard.
Tout à fait, mais il est certain que le taux de fausse couche augmente avec l'âge, ça c'est évident.
Il y a aussi des causes qu'on appelle immunologiques, des causes immunologiques de fausse couche. C'est quoi une cause immunologique?
Alors, une cause immunologique, c'est une certaine compatibilité entre l'endomètre, hein, c'est-à-dire l'intérieur de la cavité utérine, de la mère, et les antigènes constitués par le fœtus, par l'embryon plutôt.
C'est comme une greffe, enfin, hein, une grossesse, c'est ça.
C'est une greffe, c'est pas comme une greffe, c'est une greffe. Et donc la réaction immunologique de la mère vis-à-vis de l'embryon peut quelquefois être cause d'une grossesse arrêtée ou d'une fausse couche. Mais il faut aussi dire que certaines patientes ont des maladies immunologiques et fabriquent des anticorps qui sont des causes de l'arrêt de cette grossesse.
Comme le lupus ou des maladies de ce genre-là.
Comme le lupus, les anticorps antinucléaires et la thrombophilie.
Donc là, aujourd'hui, on parle de fausse couche. Pour autant, on est d'accord qu'une maman, enfin une femme qui aurait des pathologies chroniques qui pourraient rendre une grossesse difficile peut quand même, malgré tout, avoir une grossesse qui se passe bien, car on suit de plus en plus ces pathologies, et c'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'on ne pourra pas avoir d'enfant.
Tout à fait. Ces pathologies associées à la grossesse sont très bien prises en charge. Il y a toute une spécialité qui est constituée par les pathologies associées à la grossesse. Et donc, elles sont prises en charge pendant la grossesse, en association avec la médecine interne, avec l'hémostase, avec les obstétriciens, et ça se passe plutôt bien.
Alors, lors de la journée Jean Foch, qui sera organisée vendredi par l'hôpital Foch, à laquelle vous participez évidemment, le sujet, ce sera notamment les fausses couches à répétition. D'ailleurs, à partir de quand on parle de fausses couches à répétition? Bon, déjà, j'imagine qu'il en faut au moins deux, mais c'est vraiment 2, c'est encore raisonnable. Enfin, je ne sais pas, il faut compter combien de fausses
couches. La définition des fausses couches à répétition, c'est à partir de 3 fausses couches. Mais en général, quand une patiente au-delà de 35 ans fait 2 fausses couches répétées, l'une après l'autre, sans aucune grossesse normale auparavant, on commence à se poser la question et à organiser un bilan pour essayer de comprendre les causes de cette pathologie et puis surtout proposer un traitement. Mmh. Mais la définition officielle de l'OMS, c'est 3 fausses couches. À partir de 3 fausses couches, on commence à réaliser un bilan. Mais il faut toujours considérer l'âge. On ne considère pas les fausses couches.
Deux fausses couches à 25 ans, c'est pas pareil.
À 25 ans, comme, une fausse comme deux fausses couches à 40 ans.
Mmh. Jimmy ?
Et étant donné qu'on fait des enfants de plus en plus tard, je suppose que vous voyez de plus en plus de fausses couches un peu à répétition ou pas spécialement ?
Si. Les nombres de fausses couches augmentent avec l'âge et donc la grossesse, le premier enfant, on sait que l'âge de premier enfant ne cesse d'augmenter. Donc on a de plus en plus de fausses couches, mais on a aussi de plus en plus de fausses couches à répétition. Mais c'est une, je dirais, quel que soit le taux de et le nombre des fausses couches, c'est une pathologie dont la prise en charge n'est pas, à mon avis, et ça on le dit souvent, n'est pas optimale.
C'est pour ça que vous en avez fait un grand thème de votre journée vendredi.
Absolument.
Hein.
C'est pas simplement le traitement et la prise en charge des causes et traitement de causes de la fausse couche, mais c'est la prise en charge global.
C'est où ça pêche en France ?
De la première ça pêche parce que c'est une pathologie qui est
méprisée un peu.
Méprisée, enfin je veux dire, n'est pas prise à sa place, à sa valeur, parce que c'est quand même une grande souffrance. Quelquefois, on fait une différence entre fausse couche tardive, où il y a un protocole, des prises en charge psychologiques, médicales, génétiques.
Mais à 5 semaines, on peut être traumatisé.
À 2 semaines d'intervalle. Ouais. En fait, l'arrêt de la grossesse, c'est la même, c'est exactement la même conséquence pour une patiente que la grossesse s'arrête à 16 semaines ou à 18 semaines. À 18 semaines, c'est une fausse couche tardive, une mort fœtale in utero. Et là, on a une excellente prise en charge.
Là, on sort le protocole, les grands moyens, mais avant...
Et tant mieux, on a beaucoup travaillé. Et je crois que le Collège des gynécologues obstétriciens français a fait un travail remarquable, aussi bien pour les morts fœtales in utero et les grossesses tardives, mais aussi pour les fausses couches à répétition. Mais comme c'est très disparate, et d'ailleurs la prise en charge est très disparate d'une patiente à l'autre, d'un centre à l'autre, et elle n'est pas optimale.
Merci professeur Ayoubi, nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous, dans un instant. On va parler justement de ce que devrait être la prise en charge optimale des fausses couches. Quels sont les examens que chaque femme devrait se voir proposer pour éviter que cela se reproduise. On verra que la prise en charge doit être tant médicale que psychologique. Mais avant ça, un peu de musique sur Europe 1, du rock même. C'est le groupe américain Non Blondes et ça s'appelle What's Up.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital de Foch, à l'hôpital Foch, pardon. Avant de rentrer dans le détail, professeur Ayoubi, de ce que devrait être la prise en charge des femmes qui font des fausses couches à répétition ou pas d'ailleurs, un petit mot optimiste, professeur Ayoubi, il faut rappeler quand même que la plupart, d'ailleurs vous en avez donné pas mal de mots optimistes pendant cette émission, mais la plupart des femmes qui vont faire des fausses couches, elles finiront par avoir un bébé, on est d'accord ?
Le plus souvent. Le plus souvent, même après 1, 2, 3, 4, 5 fausses couches, le plus souvent, ce sont des femmes qui finiront par avoir une grossesse. Comme je l'ai dit au départ, la moitié du verre plein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infertilité dans cette population. C'est une population où la fonction ovarienne fonctionne bien, le spermogramme fonctionne bien, et la fécondation, l'implantation. Or, après l'implantation, la grossesse ne s'est pas continuée, elle s'est arrêtée.
Alors, vous, à l'hôpital Foch, vous avez mis en place un protocole pour prendre en charge ces femmes de façon optimale. On va en parler, mais d'abord, est-ce que les femmes qui ont fait une fausse couche, elles devraient avoir un bilan dès la première ou il faut attendre la deuxième, la troisième ?
Je ne pense pas qu'il faille faire un bilan complet après une première fausse couche, car c'est tellement fréquent et on va multiplier les bilans presque inutiles. Mais je pense qu'au lieu de faire un bilan, il est nécessaire de reconvoquer la patiente, car la fausse couche survient dans la plus grande majorité de cas en urgence. La patiente arrive aux urgences, elle est prise en charge dans l'urgence, elle va avoir le traitement dans l'urgence. Il est nécessaire de la convoquer, de lui donner la possibilité de revoir un médecin senior avec un psychologue dans les 15 jours qui suivent l'épisode.
Et la deuxième, troisième fausse couche, là, c'est obligatoire.
Et là, on fait une consultation. Et s'il y a des examens nécessaires à faire, on le fera. En revanche, en cas de fausse couche à répétition, là, il y aura une consultation non seulement avec un senior gynécologue et une psychologue, mais aussi avec un médecin interniste pour réaliser le grand bilan complet afin de traiter les pathologies qui causent des fausses couches à répétition.
Jimmy ?
Et justement, quel est ce bilan si jamais on doit le faire, car finalement on fait des fausses couches à répétition ? On peut le faire sur une journée par exemple, ou c'est quelque chose qui s'étale dans le temps ?
Alors après, tout dépend de l'organisation et de la capacité des patientes à rester sur une journée. Le mieux, c'est d'organiser un bilan complet sur une sorte d'hôpital de jour où on réalise la totalité des examens sur place.
Et c'est quoi ? C'est du médical et du psychologique ? Enfin, du médical, il y a quoi comme
bilan dedans ? Le bilan, ouais. c'est plutôt médical, ça, de la consultation, l'échographie, éventuellement d'autres examens d'imagerie, un bilan biologique complet,
c'est une prise de sang,
hormonal,
ça, hein, ouais.
Une prise de sang. Après, il y a une hystéroscopie diagnostique, c'est-à-dire la visualisation de l'intérieur de la cavité utérine afin de rechercher des polypes ou des fibromes qui seraient, ou une malformation utérine qui serait la cause de cette fausse couche. Et puis, au-delà de 3 fausses couches ou en cas des suspicions d'anomalies génétiques, on peut demander la réalisation d'un examen génétique, d'un karyotype chez la femme et chez le conjoint.
Ah, parce que le papa aussi est investigué. C'est pas toujours, j'allais dire, la faute, c'est la faute de personne, mais c'est pas toujours la mère, hein, qui est en cause.
Non, c'est pas toujours la mère, heureusement. Enfin, c'est bien réparti. C'est l'ensemble, c'est le couple qui
donc
est...
Donc vous investiguez l'homme aussi. Hein,
absolument, absolument.
Jimmy ?
Et donc vous en avez un tout petit peu parlé, c'est vrai que quand on parle de fausses couches, on s'assure d'abord que c'est bien confirmé, donc elles ne sont pas pour autant tout de suite, on ne fait pas toujours le diagnostic dans l'immédiat. Parfois, elles arrivent à un stade très précoce où le cœur ne bat pas tout de suite et elles ont des petits saignements. Elles sont parfois reconvoquées dans quelques jours ou 48 heures après pour voir si la prise de sang évolue.
Il faut contrôler au moins une semaine après. Pas 2 jours après, ça, il n'y a aucun intérêt à contrôler 2 jours après. Il faut contrôler une semaine, voire 10 jours. Après, il n'y a aucune urgence s'il n'y a pas d'hémorragie. Il faut confirmer l'arrêt de la grossesse avant de la traiter. Mmh. Il faut faire une première confirmation et ensuite proposer un traitement et ensuite proposer éventuellement une consultation ou un bilan. Mais il ne faut jamais oublier la part psychologique. La part psychologique, la souffrance, l'angoisse, le stress. Et ces patientes sont à accompagner. Surtout si elles le désirent. Ce n'est pas une obligation. Mais si elles le désirent, il faut avoir le moyen de proposer un accompagnement psychologique.
Ça veut dire que dans votre protocole optimal à Foch, c'est finalement pluridisciplinaire. On ne voit pas juste le gynéco ou l'urgentiste. Hein, quand on a une fausse couche, on voit qui d'autre ? Il y a qui rentre dans ce bilan ?
Dans l'urgence, on voit le gynéco et l'anesthésiste. Mais s'il y a une urgence vitale, mais il y a systématiquement un rendez-vous qui est donné avec un gynéco, éventuellement avec un psychologue ou une psychologue. Et en cas de fausse couche à répétition, ce sera une consultation multidisciplinaire, c'est-à-dire en même temps la consultation avec un gynéco, un spécialiste de l'hémostase.
C'est quoi un spécialiste de l'hémostase pour nos
auditrices ? C'est un spécialiste de la coagulation, car on sait qu'il y a des anomalies de la coagulation qui sont responsables de fausses couches à répétition. Et puis, bien sûr,
un généticien peut-être aussi ?
Un généticien, ce n'est pas nécessaire, parce que le généticien, on aura son avis si c'est nécessaire, mais surtout un médecin interniste.
Jimmy ?
Qu'est-ce qu'on fait de l'embryon dans les fausses couches à répétition ? Est-ce qu'il est analysé ou absolument pas ?
Il est systématiquement analysé, mais malheureusement, on n'a pas souvent des causes sur le produit de la fausse couche. On n'a pas, on met pas souvent en évidence la cause génétique ou infectieuse de la fausse couche. Mais on la fait systématiquement.
Parce que si on trouve une cause génétique, il est possible pour une grossesse ultérieure de faire le diagnostic préimplantatoire, c'est ça, pour éviter.
Nous n'avons pas le droit en France de réaliser le diagnostic préimplantatoire.
C'est-à-dire choisir le bon embryon.
Choisir
qui serait,
les bons embryons
sans cette
à l'étranger.
Maladie,
ouais. À l'étranger, ça se fait un peu partout, mais. En France, nous n'avons pas eu le droit. Et même
pas dans l'indication fausse couche à répétition, en tout cas.
Pas l'indication de fausse couche à répétition.
Il y a des maladies pour lesquelles c'est autorisé en France.
Absolument, le diagnostic préimplantatoire, et il a ses indications pour les maladies, pour les pathologies létales ou d'une particulière gravité, mais l'extension du DPI aux indications des fausses couches à répétition n'est pas autorisé.
Pour terminer, juste, vous nous avez dit que la plupart des femmes qui ont vécu une fausse couche, ou même plusieurs, hein, finissent par avoir un bébé, c'est une bonne nouvelle. Mais combien de temps après une fausse couche on peut se remettre en selle, entre guillemets ? Je sais qu'à une époque, on conseillait aux femmes d'attendre un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Aujourd'hui, c'est quoi la règle ?
Il n'y a pas de règle. De toute façon, on peut se remettre rapidement au travail, si on veut dire. Il n'est pas nécessaire de trop attendre.
Si on est enceinte le mois d'après, c'est pas un problème.
Absolument pas.
Il n'y a pas de raison médicale.
Après, psychologiquement, peut-être que un ou deux cycles de repos ne feront pas de mal, mais ce n'est pas physiologique, c'est juste psychologique.
Pour se remettre bien dans sa tête, quoi, c'est ça. Merci beaucoup, professeur Ayoubi, d'être venu sur notre plateau, nous en dire plus sur la prise en charge des fausses couches, qui doit donc ne pas être banalisée. Et donc, on retiendra que l'aspect psychologique aussi de cet accident de parcours doit toujours être pris en compte. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'une maladie infectieuse, la scarlatine. Quels sont les symptômes qui doivent faire penser à cette maladie et comment ça soigne? On va vous expliquer tout ça. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la scarlatine. Savez-vous comment reconnaître cette maladie infectieuse? Qui sont les gens les plus touchés? Et savez-vous comment ça se soigne? Justement, notre Benjamin Lévesque national a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
Alors, ce nom, je veux juste le citer, mais je serais incapable de mettre derrière des mots.
Bon, scarlet, scarlatine, bon, il y a moyen que ce soit tout rouge. C'est pas des boutons, tout ça, mais...
Est-ce que c'est une maladie avec des boutons? Est-ce que, enfin, je verrais ça comme ça, mais... Après, je suis en train d'essayer de voir si il y a un vaccin pour ça.
Pour moi, c'est quelque chose d'assez ancien, pas forcément très propre. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe complètement, mais je serais plus sur un truc bien dégueu de l'époque.
Je pense que ça peut avoir des boutons, des montées de fièvre, on va dire, et puis des démangeaisons.
Je pense que ça ressemble un peu à tout ce qui est varicelle, rougeole, je pense qu'il y a des boutons sur la peau, une maladie infantile.
Enfin, forcément, ça doit pouvoir toucher d'autres personnes, mais pour moi, il me semble que ce qu'on protège, c'est essentiellement les enfants. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas que genre, mon enfant attrape ou autre. Après, je ne saurais pas dire si c'est grave ou pas.
Oh, c'est plus un virus, je pense.
Bah, j'espère qu'aujourd'hui, si on l'a, on le soigne.
Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus aussi dangereux que ce ne l'était auparavant, donc il doit y avoir un traitement, je pense, pour guérir de la scarlatine.
Jimmy, on fait un point sur une maladie infectieuse, la scarlatine. Alors, c'est quoi cette maladie? Comment on la reconnaît d'abord?
La scarlatine, c'est une angine qui donne des boutons.
D'accord, bah c'est voilà. Bien. Merci, Jimmy.
Voilà. Mais voilà, mais c'est tout simplement ça, parce que c'est vrai, on en fait souvent tout un truc et c'est banal, ça fait très peur.
C'est une angine avec de la fièvre.
Exactement,
quand même,
c'est une angine, donc elle est bactérienne. Elle est bactérienne, elle est due donc à une bactérie qui s'appelle le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.
Wow.
Un nom barbare qui veut simplement dire un streptocoque banal qui sécrète une petite toxine, mais pas méchante, hein, elle n'est pas grave, qui va donner cette angine avec une éruption cutanée et surtout qui est très contagieuse.
D'accord. Et la scarlatine, c'est une maladie qui touche plus particulièrement les enfants, on est d'accord, c'est un truc de l'enfance.
Exactement, hein, ouais. Ça touche les enfants plutôt de 5 à 10 ans, plutôt en hiver, dans des petites épidémies. Souvent, vous avez des petites affichettes à l'école,
c'est vrai,
cas
à la crèche,
de scarlatine
moi j'ai
vu à la
déjà,
crèche,
ouais.
Et on sait qu'il y a des petites épidémies qui surviennent. Les enfants, ils sont en contact une première fois avec le scarlatine chez une personne qui serait porteur sain, et comme l'enfant n'a pas été immunisé, il va la développer. Tout ce qui veut donc dire qu'à 10 ans, on estime que 80% des enfants ont déjà produit des anticorps qui vont les immuniser toute leur vie contre cette scarlatine, ce qui veut donc dire qu'on en fait simplement une fois dans la vie.
C'est pour ça que nous, on ne la voit pas souvent chez les adultes. En fait, on est immunisé, hein, c'est
exactement.
Ça. Petite question pratique, quand on l'attrape, c'est parce qu'on est rentré en contact avec ce streptocoque, la bactérie dont vous parliez tout à l'heure, mais comment? Enfin, on le trouve où?
Ce streptocoque qui est responsable de la scarlatine, on la trouve de façon naturelle dans le nez et le pharynx, des gens qui sont porteurs, et la contamination va se faire finalement comme n'importe quelle angine, n'importe quelle grippe, par la contamination aérienne, au travers de petites gouttelettes de salive, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, lorsqu'on ne se lave pas les mains après s'être mouché le nez, lorsqu'on fait des bisous ou de façon indirecte, si jamais on touche un objet, un jouet, qui va être récemment souillé par des sécrétions et qu'on va ensuite porter à la bouche, une fois qu'on a développé la bactérie, et ben on est à son tour très contagieux, raison pour laquelle on a ces petites épidémies.
Alors juste un petit mot sur l'éruption cutanée dont vous avez parlé. Vous avez dit donc il y a des boutons, des plaques, ça ressemble à quoi la scarlatine?
Alors la scarlatine, ça donne aussi une langue un peu particulière. Ça commence par une langue d'abord un peu blanchâtre.
Avec un enduit blanchâtre
exactement,
dessus.
Exactement, pas très jolie. Et qui évolue ensuite vers une forme d'épapillée. On a une langue un peu framboisée. Vraiment,
d'accord.
Elle ressemble vraiment...
Ça a l'air charmant comme ça.
Mais oui, c'est très mignon. Mais j'adore regarder la langue des enfants parce que je me dis, ah, la langue framboisée de la scarlatine avec d'accord. Une angine, c'est très simple. Suit ensuite cette petite éruption. Alors, inutile pour vous de jouer au Dr House, ça c'est le rôle du médecin. Parfois, on a du mal à reconnaître l'éruption, elle est plutôt diffuse, il n'y a pas d'espace libre entre deux boutons. Mais surtout, il faut faire un test de gorge qui permet de faire le diagnostic de scarlatine. L'éruption aide pour guider le diagnostic.
Et on en a partout des boutons?
Il y en a partout sur toute la tête, de la tête aux pieds. Et surtout, dans la mononucléose, on peut avoir à peu près la même éruption.
D'accord.
Et c'est le test de gorge qui permet de faire la différence.
pour très rapidement, ça se soigne.
Ça soigne comme, une angine bactérienne classique. 6 jours d'amoxicilline si vous n'avez pas d'allergie.
Antibiotiques.
On est contagieux encore durant 48 heures. C'est la seule maladie à éviction obligatoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à l'école ou en collectivité durant les 48 heures de début d'antibiotiques.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, ce sera la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler d'amour à distance. Mais d'abord, on écoute de la musique avec la jeune chanteuse de seulement 25 ans, Iseult, révélée dans l'émission La Nouvelle Star en 2014. Ça s'appelle Corps.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes toujours avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jim.
Alors aujourd'hui, vous allez répondre à la question que nous a posée Marianne, qu'elle a 24 ans. Je vous lis sa question. Je suis en couple depuis 3 ans, tout se passe bien. Je viens d'apprendre que mon copain était muté à 800 km de chez moi. Pour l'instant, je ne peux pas le suivre professionnellement, donc on va devoir rester séparés au moins 2 ans. Vous pensez que l'on va tenir, comment faire pour que cela tienne? Alors Catherine, le grand sujet de vous plaisanter, de l'amour à distance, moi j'avais essayé un an mais ça n'a pas marché personnellement. D'abord, en règle générale, ça tient ou pas? Bon, après j'avais 18 ans, alors peut-être qu'à 24 ans on est plus mature pour essayer de faire tenir les choses. Mais...
Je crois que la question n'est pas savoir si ça peut tenir, ou, enfin si ça tient ou si ça tient pas, c'est surtout comment est faite la relation. Est-ce qu'elle est faite sur un élan sexuel, un désir sexuel et un besoin d'être nourri sexuellement réciproquement?
Auquel cas
la distance peut être compliquée. Est-ce que d'ailleurs c'est la relation est là pour servir la sexualité, auquel cas c'est mal barré, puisque toute occasion évidemment renverra la possibilité de vivre des choses légères, faciles, etc. et en opposition à la frustration. Ou alors, au contraire, c'est un sentiment amoureux qui va avoir besoin de prouver combien il est fort et qui va se nourrir de la distance en se disant que justement c'est la preuve de mon amour, c'est la projection de on se retrouve à telle date ou on se voit à telle date, j'ai organisé telle chose, ce qui peut être extrêmement érotique finalement.
Bah justement, on connaît tous des couples chez qui ça a malgré tout fonctionné, mais on peut dire quand même que c'est toujours une épreuve quand même. J'imagine dans n'importe quel couple, qu'il soit solide, qu'il soit basé sur le sexe ou sur autre chose,
bien sûr.
Toujours une épreuve.
Oui, c'est toujours une épreuve. J'allais dire ce d'autant plus que dans notre société, on voudrait nous faire croire que la vie normale est une vie qui n'est que jouissance, qui n'est que satisfaction et jamais frustration. Or, la vie, c'est frustration. Et là, par essence, c'est une situation de frustration. Donc, évidemment que c'est une épreuve. Or, c'est dans la frustration aussi que l'on apprend à découvrir son potentiel et sa force personnelle, sa sécurité et le sens que l'on donne à la relation.
Jimmy ?
Et dans une relation, on va dire classique, établie, engagée, sérieuse, qu'est-ce qui est le plus difficile quand justement on est à distance ? Est-ce que c'est les rapports sexuels tout simplement ou c'est finalement la présence du quotidien, même si on a des outils finalement pour s'appeler, se voir par vidéo
et tout ça,
ou c'est finalement le contact physique et même sexuel, disons-le, qui peut être le plus difficile à passer.
Alors, il y a évidemment la sexualité qui est un vrai enjeu, mais il y a aussi la confiance. C'est-à-dire, pendant ce temps, que fait-il, que fait-elle ? Parce que je ne sais pas, donc on est un peu tenté de s'appeler beaucoup, donc se saouler éventuellement, donc en faire trop, parce qu'on n'arrive pas au bon moment. En temps habituel, on sait grosso modo ce que l'autre fait, on sait qu'on va le retrouver.
Si, on le voit ce soir.
Voilà, on le voit ce soir et on se parlera ce soir. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte d'insécurité. En mon absence, qu'est-ce qu'il vit ? Est-ce que c'est bien ? D'ailleurs, dire c'est super, j'ai passé une super journée, j'ai rencontré des chouettes collègues, des choses comme ça.
Ah oui, ça peut être mal vécu.
Ce qui devrait normalement être réjouissant, peut-être au contraire vécu comme quelque chose de douloureux.
Si on est de nature jalouse, vaut mieux éviter la relation à distance, non, peut-être quand même.
Ou la travailler, du coup, c'est une bonne occasion.
C'est un moment de prendre sur soi.
C'est un moment d'apprendre que, justement, tout ne s'écroule pas parce qu'on ne maîtrise pas ce que fait l'autre, ce que vit l'autre, par exemple. Oui.
Jimmy ?
Bon, je sais que vous n'aimez pas donner de chiffres, mais malgré tout, est-ce qu'il y aurait une durée à partir de laquelle c'est un peu mort pour le couple? C'est-à-dire que 2 ans, ça me semble un peu compliqué, ou au contraire...
Vous, ça vous semble long, Jimmy,
2 ans, ça me semble très très long. Un jour sans mon épouse, c'est déjà très très long. Donc 2 ans, j'imagine pas.
Quel joli message d'amour.
C'est bien. Ah oui, ça c'est sûr, et surtout à notre époque. Parce qu'imaginez les époques où il y avait des guerres, où le proche chevalier partait, guerre royale, on ne savait même pas s'il allait rentrer. Pensez donc ce qui allait se passer sur la route.
Il y a
route,
des couples, ça dit, quand le mari est militaire, ou je ne sais quoi, il y a des métiers qui imposent ce genre
bien
de d'éloignement, mais ça fait partie du contrat, entre guillemets.
Ça fait partie du contrat, et puis c'est aussi ce qui a participé du choix du partenaire. Hein. Parce que, évidemment, épouser un marin, c'est pas
alors,
la même
mois,
chose que
deux
d'épouser...
Alors, 2 mois, 2 ans max, Jimmy veut un chiffre.
Bah, je crois que c'est impossible. Enfin, je serais bien infoutue de donner une date parce que que, encore une fois, tout dépend de la capacité qu'a un individu à se construire une vie en dehors de l'autre, en attendant l'autre, ou au contraire à être vraiment très au crochet de l'autre, et auquel cas, c'est un temps très court de fait. Et évidemment, savoir se construire une vie, c'est aussi une vie dans laquelle on pourra, enfin, qui nourrira la relation, et pas pour s'exclure ou s'éloigner de l'autre aussi. Hein. Tout dépend ce qu'on veut en faire.
Là, Marianne Noob dit qu'ils vont avoir 800 km qui vont les séparer. 800 km, c'est beaucoup, et à la fois, ça permet d'organiser des petits week-ends pour se retrouver. Donc, ça, c'est important de maintenir comme ça des objectifs. On se revoit dans un mois, dans deux mois, pour que ça tienne.
Oui, on se redonne rendez-vous, et je t'ai préparé quelque chose. Je veux te faire découvrir un resto que j'ai découvert, ou tiens, je viens de te retrouver. D'ailleurs, souvent, ce qui est difficile, alors ça dépend aussi des âges, parce que quand on est jeune, un jeune couple est plus avec des inquiétudes du temps trop long entre deux rendez-vous. Et puis, quand on est plus âgé, ben, c'est aussi, on s'habitue et on a peur que l'autre vienne nous envahir ensuite. Donc, c'est compliqué.
Compliqué à gérer, mais grâce à vos conseils, on y voit plus clair. Merci beaucoup, Catherine. On vous retrouve bien sûr demain. Alors demain, justement, on vous proposera une émission spéciale coronavirus, une heure pour comprendre et se détendre aussi, car même si on rentre dans une épidémie, on va vous aider à relativiser le niveau de danger pour vous et pour vos proches. On vous dira aussi tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous protéger, car de petites mesures permettent une grande protection. On en parle demain, mais pour le moment, je cède la place à Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous aujourd'hui. C'est une légende du rock français qui nous accompagne, Philippe Manœuvre, on peut le dire le parrain du rock, pour un concert géant qui réunira plus de 1000 musiciens au Stade de France en juillet prochain. J'ai déjà prévu de lui faire écouter une reprise rock d'Yvette Horner. Je pense qu'il ne va pas être déçu du voyage.
Merci beaucoup Mathieu, bonne émission. On sera à l'écoute et vous, restez sur Europe 1.